Il est 8h.
Le paiement se fait à partir de l'application, la réservation du créneau pour descendre. Ça me permet de prendre du temps pour déjeuner, ce que je ne faisais pas en télétravail.
Voilà, bon appétit.
Bon appétit à la cantine. Des restaurants d'entreprise s'offrent un coup de jeûne alors que s'allègent les restrictions sanitaires. L'enjeu, c'est aussi de rendre le bureau de nouveau attractif pour faire revenir les télétravailleurs. Elle plafonne à 10% dans les sondages. Anne Hidalgo n'a pas encore dévoilé ses intentions pour la présidentielle. Alors 200 élus de gauche tentent de créer une dynamique en appelant publiquement à la maire de Paris à se lancer dans la course. Et puis, lui joue déjà les premiers rôles. À nouveau, Tadej Pogačar, 22 ans. Depuis hier, il est deuxième au classement général du Tour de France qu'il avait emporté l'an dernier. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Réforme des retraites, course de vitesse contre le variant, course de vitesse à droite en vue de 2022. C'est le menu de l'interview de notre invité, le président du Sénat, Gérard Larcher.
On vous retrouve à 8h15, c'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Tous à la cantine, c'est le jour ou jamais. On se motive entre collègues, car à partir d'aujourd'hui, la jauge à 50%, c'est fini. Et nous sommes dans cet intervalle-là, juste avant les premiers congés et juste après la levée des dernières restrictions. Alors, certains salariés vont trouver aujourd'hui un restaurant d'entreprise transformé, réduisant les risques sanitaires et améliorant au passage le confort. On s'y verrait bien d'ailleurs dans cette cantine d'une tour de la Défense près de Paris, où s'est rendu mode des camps pour Europe 1.
Omelette aux truffes, cola au citron.
Pour Céline, l'une des 1200 salariés qui déjeunent ici quotidiennement, le choix est déjà fait. Elle a passé commande il y a quelques minutes depuis son smartphone.
Le paiement se fait à partir de l'application, la réservation du créneau pour descendre. Ça me permet de prendre du temps pour déjeuner, ce que je ne faisais pas en télétravail.
Voilà, bon appétit.
À l'étage du dessous, le self, là aussi quelques nouveautés, comme ce scanner qui permet en quelques secondes seulement de calculer le prix du plateau.
Ça détermine tout seul le contenu, on gagne du temps.
Récupérer son déjeuner rapidement, limiter les contacts, mais aussi trouver une offre plus large, plus saine. Des services incontournables pour donner envie aux salariés de revenir au bureau, estime Paul Kipour du groupe de restauration collective Elior.
Pour moi, le restaurant d'entreprise est clairement un vecteur de retour au bureau très important. On a dû en fait s'adapter plus vite que prévu, comme le click and collect, comme le frigo connecté. Pouvoir déjeuner dans votre bureau, dans une salle de réunion, dans un espace collaboratif. Donc ça, c'est l'un des principaux changements.
Il y a aussi le service de livraison à domicile pour les télétravailleurs, autant de solutions que les entreprises hésitaient à adopter avant la crise et qui se déploient désormais à vitesse grand V.
Reportage de Maude Descamps, 1er juillet. Ce n'est pas juste la libération des cantines, mais aussi celle des cinémas, des commerces. Les jauges, c'est terminé. Petite prolongation tout de même d'une semaine dans le département des Landes en raison du variant Delta. Et puis ce jeudi marque aussi, on en parlait dès hier, l'entrée en vigueur du pass sanitaire au niveau européen pour les voyages d'un pays à l'autre.
Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 en direct de l'aéroport d'Orly. Alors, Johanna, comment ça se passe concrètement pour les passagers ?
Eh bien, avant leur départ, quand ils déposent leur bagage ou qu'ils arrivent à l'embarquement, les équipes des compagnies aériennes vérifient ce pass sanitaire européen. Il peut être sur papier ou sur téléphone. Il s'obtient grâce à une vaccination complète, un test PCR de moins de 72 heures ou encore si on prouve qu'on a été positif au Covid ces 6 derniers mois. Alors c'est assez fluide pour l'instant ici, avant un vol vers la Corse, même s'il faut souvent rappeler aux passagers de sortir ce pass européen, les habitudes ne sont pas encore là. Mais pour Sandrine, ça reste une bonne idée.
C'est sûr que comme on est quatre, ouais, ça fait un document en plus. Après, je trouve que c'est un document qui nous permet de voyager. Donc pour moi, il est quand même pas encombrant du tout. C'est ce qui va nous permettre de circuler en toute liberté et en toute sécurité. Et je pense que c'est important.
L'avantage principal, c'est surtout en fait pour les équipes de compagnies aériennes. Avant, elles devaient vérifier des tests dans toutes les langues possibles et imaginables. Béatrice n'a maintenant plus qu'à contrôler un document commun à 31 pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen.
Avant, on essayait de regarder l'anglais. On mettait beaucoup de temps à trouver les informations sur un résultat de test. Là, en un coup d'œil, avec l'appli et le pass sanitaire européen, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair pour nous et rapide.
Et si le passager n'a pas son pass, alors il est invité à se faire tester à l'aéroport pour enfin récupérer ce sésame et pouvoir partir.
Merci Johanna. Alors je profite juste du fait que vous soyez sur place parce qu'il y a cette grève du personnel d'ADP à Roissy et Orly pour 5 jours. Est-ce qu'il y a des perturbations ?
Alors, il y a eu une petite manifestation à l'entrée du terminal 3, mais sinon, aucun vol n'a été annulé, pas de retard pour l'instant, mais Aéroport de Paris conseille aux passagers de venir une demi-heure à l'avance, juste au cas où il y ait quelques perturbations.
Johanna Chabas, en direct de l'aéroport d'Orly pour Europe 1. Oui, cette grève émane de l'UNSA, la CGT et la CFE-CGC contre un plan de modification des contrats de travail qui prévoit la suppression de certaines primes.
Oui, quelques perturbations. En revanche, du côté des trains, aujourd'hui, sur le réseau des TER, notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.
La CGT Cheminots demande des embauches et une hausse générale des salaires. La circulation des Ouigo devrait être légèrement perturbée ce week-end.
On en parlait dans le journal de 7h30. La forte hausse des prix du gaz, plus 10% pour le tarif réglementé qui concerne plus de 10 millions de clients.
Oui, les détails, les astuces pour souscrire un contrat moins cher, c'est à retrouver sur europe1.fr. Autre augmentation, elle vous concerne si vous avez l'habitude de faire des petits achats sur Amazon, sur Cdiscount, Alibaba ou encore Wish. Beaucoup d'articles vont coûter 20% plus cher à partir d'aujourd'hui. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Cette différence, en fait, c'est ce que représente la TVA.
Oui, c'est une anomalie fiscale qui est enfin réparée. Jusqu'ici, les produits de moins de 22 euros achetés sur des plateformes de e-commerce à des vendeurs basés à l'extérieur de l'Union européenne n'étaient pas soumis à la TVA, alors que ces mêmes produits achetés à des vendeurs européens étaient, eux, taxés à hauteur de 20%. Désormais, tous les produits, quel que soit leur montant et leur provenance, seront taxés de la même manière. Conséquence directe, les prix des produits les moins chers risquent d'augmenter dans les prochains jours pour compenser l'application de la TVA. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour les États européens. Ce trou dans la raquette leur coûtait cher. En France, selon un rapport de l'Inspection générale des finances, 98% des vendeurs tiers enregistrés sur les plateformes de e-commerce ne sont pas immatriculés à la TVA. Avec cette nouvelle réglementation, les États membres de l'Union pourraient se partager jusqu'à 7 milliards d'euros de recettes annuelles supplémentaires.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
8h07, un homme de plus dans la course à la présidentielle. Yannick Jadot s'est officiellement déclaré hier soir.
Et précisons qu'il se soumettra à la primaire écologiste, rejoignant ainsi deux candidats, le maire de Grenoble, Éric Piolle, et l'universitaire et économiste Sandrine Rousseau. Autre candidat. Celle-ci n'a pas encore éclos, mais elle est couvée par 200 élus socialistes. Ils signent une tribune dans la presse régionale pour appeler Anne Hidalgo à être candidate à l'élection présidentielle.
Pour la maire de Paris, c'est un pas de plus vers 2022, Claudia Bertram.
Anne Hidalgo ne s'est pas encore déclarée candidate à la présidentielle, mais ses soutiens s'activent, comme le sénateur PS Patrick Kanner, l'un des initiateurs de cet appel.
On constate depuis dimanche soir 20h une accélération. Tout le monde est déjà à la tête, non pas dans les étoiles, mais à la tête dans la séquence électorale qui arrive. Il est normal que nous puissions espérer en une candidature.
Après les bons résultats des socialistes au régional, pas question de regarder passer les trains. Alors que les écologistes se lancent pleinement dans leur primaire, Anne Hidalgo peut compter sur de nombreux maires comme celui de Montpellier, Michael Delafosse.
Comme maire de Paris, mais aussi parce qu'elle incarne bien ce lien entre la question écologique, la question sociale, celle du travail. C'est Anne Hidalgo qui peut assurer à la gauche d'être présente à la présidentielle et de l'emporter.
Parmi les signataires également, la maire de Nantes, Johanna Roland.
Une partie du peuple de gauche se sent un peu comme orphelin. Ils n'ont pas envie de devoir choisir uniquement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc, on doit se donner les moyens de proposer une alternative.
Pour le moment, Anne Hidalgo stagne à moins de 10% dans les sondages. Mais la maire de Paris va continuer à envoyer des signaux. Un proche le confirme, l'été sera très actif.
Une promesse qui avait été faite au syndicat de policiers il y a moins de 2 mois après la mort d'Éric Masson, ce policier tué par balle à Avignon lors d'un contrôle antidrogue. Création aujourd'hui de l'Observatoire de la réponse pénale des atteintes aux forces de sécurité intérieure. Une réponse en fait aux critiques faites à la justice, accusée d'être trop laxiste envers ceux qui s'en prennent aux policiers.
Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Du service police-justice d'Europe 1. Quelle est la mission de cette nouvelle structure ?
Eh bien d'abord, cet observatoire produira des statistiques sur les condamnations des individus qui s'en prennent aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Et première difficulté ici, cette dénomination ne fait pas la distinction entre le maire d'une commune, un policier ou encore un magistrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction autonome spécifique aux forces de l'ordre. Problème que le gouvernement aimerait régler à travers un projet de loi qui devrait être présenté cet été en Conseil des ministres. Au-delà de l'analyse des peines prononcées et de leur taux d'exécution, l'agression. L'idée, c'est aussi d'avoir des données de contexte, comme le lieu de l'agression, l'âge de l'auteur ou encore leur nombre. Autre mission de cet observatoire, très attendue là aussi, recréer du lien entre police et justice au niveau local. Pour cela, des réunions seront organisées entre des représentants des forces de l'ordre et des référents spécifiquement désignés par chaque tribunal. Ils seront discutés les affaires une fois jugées pour que la justice puisse faire œuvre de pédagogie et éviter ainsi la critique systématique.
Gladys Lafitte, et c'est aujourd'hui qu'arrivent les premières caméras piétons pour les policiers et les gendarmes. 30 000 appareils doivent être déployés progressivement.
Aux États-Unis, on en parlait dans le journal de 7 heures, l'acteur Bill Cosby, 83 ans, est libre. La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle.
Et il est sorti de prison dans la foulée. Les juges ont estimé que les droits de l'accusé n'avaient pas été respectés. Une soixantaine de femmes au total l'avaient accusé d'agression sexuelle ou de viol. Sa condamnation avait été la première après l'affaire Harvey Weinstein et le mouvement MeToo. Pas de réaction de Joe Biden. Sa porte-parole a simplement rappelé l'importance du combat contre les violences faites aux femmes.
Le président des États-Unis qui a en revanche pris la parole au sujet des chaleurs écrasantes qui touchent l'ouest du Canada et des États-Unis depuis quelques jours.
Quelqu'un aurait-il un jour pensé qu'en regardant les informations, nous verrions plus de 46 degrés à Portland, dans l'Oregon ? Plus de 46 degrés, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce n'est que le fruit de notre imagination.
Joe Biden, il y a quelques heures, alors que 9000 pompiers sont actuellement mobilisés contre un feu de forêt géant surnommé Lava Fire entre l'Oregon et la Californie. Le sport, avec celui qui a été l'an dernier le plus jeune vainqueur du Tour de France, 21 ans, Tadej Pogacar est depuis hier déjà presque au sommet du classement général.
Bonjour Axel May.
Bonjour.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur le Tour de France. Le Slovène n'a que 8 secondes de retard sur le maillot jaune et il reste 2 semaines et demie.
Eh bien, disons qu'en remportant le contre-la-montre sur un tracé qui convenait davantage aux spécialistes de la discipline, Tadej Pogacar passe un message clair à ses adversaires. Le patron, c'est moi. Je suis le vainqueur sortant de la grande boucle et je compte revêtir le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Écoutez, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour dans les années 70.
C'est Pogacar le grand gagnant de ce contre-la-montre. Après, on verra ce qu'il a envie de faire dans les Alpes. Mais pour l'instant, c'est lui qui donne les meilleurs gages quant à la condition physique. Bon, cela dit, dans le Tour de France, les vérités de la première semaine ne sont pas forcément celle de la troisième.
Interrogé sur son statut de favori, Poggi, comme il est surnommé en Slovénie, répond
Yeah, I guess so. We will see.
Je pense que oui, mais on verra. Ce qui est certain, c'est que le jeune homme de 22 ans a, contrairement à la plupart de ses rivaux directs comme Roglic et Thomas, échappé aux chutes. Son corps n'a donc pas souffert et ce week-end, avec l'arrivée des Alpes, Tadej Pogacar pourrait bien s'emparer du maillot jaune.
Axel May, 6e étape du Tour aujourd'hui, 160 km entre Tours et Châteauroux. Et puis en tennis, on regardera du côté du Center Court de Wimbledon ce soir vers 18h30 puisque Richard Gasquet affronte aujourd'hui Roger Federer.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'invité de la matinale avec Sonia Mabrouk ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher.
Bienvenue à vous et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Dans un contexte sanitaire toujours incertain, Emmanuel Macron pourrait relancer la réforme des retraites en repoussant l'âge de départ à 64 ans. Est-ce que le climat est vraiment propice à une telle réforme ?
D'abord, je pense que c'est une réforme indispensable si on veut sauver le système par répartition. Il y a une méthode pour ça, mais rappelons-nous, soit l'âge, soit la baisse des pensions, soit l'augmentation des cotisations. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. La méthode, c'est une méthode qui doit faire appel, bien sûr, au dialogue social, au dialogue avec le Parlement, et il y a une fenêtre qui s'appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Est-ce que l'opinion est en état d'entendre cela? Vous savez, je viens de faire un tour, pas totalement complet, mais quasi complet des régions de France. Je peux vous dire que si on dit la vérité, si on dit les choses, 13 milliards aujourd'hui de déficit sur l'année 2020.
Oui, mais à quel prix? Est-ce que vous vous inquiétez, puisque vous avez fait ce tour de France, Gérard Larcher, d'une résurgence du virus social, des conflits sociaux dans une France qu'on décrit
voilà
comme fracturée?
Voilà pourquoi il faut passer par le dialogue social, ça peut être fait, mais à un moment, il faut aussi le courage de la vérité, le courage de la décision. Et le Sénat a voté la réforme en 2019 et 2020 dans la diversité de la majorité sénatoriale. 64 ans, une conférence de financement, c'est le dialogue aussi avec les partenaires sociaux, la réalité de la pénibilité de certains métiers ou de carrières longues, et la question des toutes petites retraites, qui sont une inéquité sociale extrêmement forte.
Donc, est-ce qu'il y a ce courage? Est-ce qu'il y a, selon vous, cette volonté réformatrice?
Ça va dépendre. En tous les cas, nous, on y est prêts. On est prêts à un débat. Et c'est assez, pardonnez-moi, clair pour nous. Nous l'avons déjà voté 2 années de suite.
C'est clair, mais ça dépendra aussi de la situation sanitaire. Nous parlions des fractures à l'instant, Gérard Larcher. Il en est question dans l'interview ce matin du président dans le magazine Elle. Emmanuel Macron déplore, je cite, une société qui se racialise et se dit être du côté universaliste. Voilà pour les mots. Est-ce qu'il l'applique en acte, le président ?
Écoutez, moi je suis pour le caractère universel de la République. Il faut que les choses soient claires autour des valeurs de la République. Nous venons d'avoir un débat au Parlement à la suite du discours du Mureau et des propositions du gouvernement. Il y a des signaux qui sont contradictoires.
Lesquels ?
Je vais prendre un exemple. Est-ce que, par exemple, la fermeture que nous proposions d'une association qui interdit des réunions au motif de mixité, d'ethnie, de race, elle est contraire à cet universalisme républicain. Je pense que l'adjectif est extrêmement important. Les sorties scolaires sont pour nous des moments du temps scolaire. Donc les signes religieux ne doivent pas être abordés dans ces sorties scolaires.
Qu'est-ce que vous en concluez que le président...
Les listes communautaires. Eh bien, l'Assemblée nationale vient de supprimer ce travail du Sénat qui se basait sur la laïcité et l'universalisme républicain.
Ça veut dire quoi ? Qu'il y a les mots et les actes de la majorité ? Ah bon, des contre-signaux ?
Ah oui, c'est des contre-signaux. Mm-hmm. La réalité vraie, c'est cela. Et je dois dire qu'il en est du débat sur faut-il permettre aux assesseurs de porter des signes
distinctifs. Débat houleux à l'Assemblée nationale.
Débat houleux. Pourtant, se rappeler la décision du Conseil d'État en 2002 sur la neutralité politique de l'assesseur. Eh bien, la neutralité religieuse fait partie de ces mêmes références.
Attendez, voilà pourquoi. Attendez, vous dites, Gérard Larcher, que cette neutralité religieuse est la même que la neutralité politique.
Oui,
donc
là,
le voile est un signe politique,
bien sûr,
selon vous. Quand
c'est un signe qui peut être... Et on doit se dire, en plus, le faire dans le bureau de vote de M. Bardella, est-ce que ça n'était pas organisé pour une forme de provocation ? Point d'interrogation, point d'exclamation.
Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez signé à ce moment-là ? Vous auriez voté ? Vous auriez protesté si vous avez vu
J'aurais
cette
fait une observation femme. Dans le procès-verbal, c'est fait pour ça.
Mmh.
On a des processus démocratiques.
Processus démocratique qui sont entravés, si je puis dire, par une vague de défiance et de désespérance. L'Assemblée nationale vient de lancer, Gérard Larcher, une mission pour lutter contre l'abstention au Sénat. Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour réduire cette fracture démocratique ?
Nous avons fait ces propositions de rénovation de la vie politique, de la vie publique, avec un principe. Et d'ailleurs, ça a été assez net dans ces élections régionales et départementales. En fait, ceux qui l'ont emporté, c'était ceux qui étaient dans la proximité, dans la réactivité, qui avaient répondu aux besoins des gens.
Vous allez me dire que vous aviez eu raison depuis longtemps de parler des territoires, de la proximité.
Je ne cesse de le répéter, la verticalité du pouvoir, ça n'est pas une bonne manière de gérer la vie quotidienne des Françaises et des Français. Ça veut dire que, par exemple, nos propositions de décentralisation, que nous allons aborder la semaine prochaine au Sénat, au travers d'un texte, faisons simple, il a changé de nom 3 fois, 4D, et qui dit, on donne demain aux collectivités territoriales, par la subsidiarité, ça veut dire, celui qui répond le mieux aux problèmes des gens du terrain, eh bien, ce sont les élus du territoire.
Mais s'il faut aller plus loin, vous entendez cette petite musique, Gérard Larcher, qui est celle de dire il faut peut-être revenir sur le non-cumul des mandats pour qu'il y ait une proximité véritablement.
Il nous faut surtout éviter, on le voit surtout à l'Assemblée nationale, cette déconnexion entre territoire et parlementaire et décision nationale. Dès 2018, nous le proposions au président de la République au moment où il avait engagé la révision constitutionnelle. Et donc, ce n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet qui avait déjà été
c'est-à-dire
voté.
C'est-à-dire, on peut revenir sur le
mais
nom
bien sûr, ça n'est pas un sujet tabou.
Mandats.
Si on commence à se poser des interdits, je pense que le lien avec le territoire, c'est une des réponses.
Donc le président
majeures,
du Sénat peut...
C'est une des réponses D'accord. majeures. C'est aussi la responsabilité mm-hmm. des politiques et des formations politiques de retrouver ce lien avec le territoire dans un pays qui
Donc attendez,
est
répondre à la fracture démocratique par un débat qui s'ouvre ou qui pourrait être ouvert sur le cumul ou non cumul des mandats.
C'est pas le seul débat.
Non mais d'accord, c'est mais ça fait débat. Partie des
souvenez-vous,
débats.
Souvenez-vous, est-ce qu'il faut qu'un parlementaire ait un lien avec une circonscription ? C'est le débat entre proportionnel et système majoritaire à deux tours. Je pense que les citoyens ont besoin de connaître celles et ceux qui les représentent.
Et, qui vont...
et ils doivent être attachés à un territoire. Et est-il interdit à ceux-là d'exercer, je n'ai pas dit 10, une fonction exécutive ?
On a compris.
C'est un
le
vrai
débat est
sujet,
ouvert.
Ce lien avec le territoire. C'est consubstantiel. Au regard du Sénat.
Alors, autre sujet. À droite, Gérard Larcher, tous les regards sont désormais tournés après ces régionales vers Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, auréolé d'une nette victoire, malgré l'abstention. Mais il y a aussi Bruno Retailleau, Michel Barnier, peut-être David Lisnard. Est-ce qu'il faut, ce matin, vous le dites, accélérer l'échéancier pour choisir votre champion en vue de 2022 ?
Vous l'avez dit vous-même, c'est d'abord une victoire dimanche dans les régionales, mais aussi dans les départementales. Nous allons avoir ce matin le choix de président des départements. Il y aura plus de départements présidés par une présidente ou un président bon. De la droite
mais
et du centre dans ce pays. Donc cette victoire.
Les noms que je viens de vous citer, ils sont déjà dans l'après,
oui,
hein, monsieur le président du Sénat.
Mais cette victoire nous oblige. Or, pour que nous sortions de la seule alternative qu'on nous proposait, c'est-à-dire un duel de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eh bien... Parce que la droite et le centre, on le voit dans ce pays, sont la première force politique, nous avons la nécessité d'avoir un seul candidat
nous
ou une
d'accord.
seule candidate
est-ce qu'il faut
et de
accélérer...
former autour de lui une équipe pour
Monsieur
la France.
Larcher, est-ce qu'il faut accélérer, c'était ma question, l'échéancier pour choisir
Écoutez,
votre champion ?
Moi je pars d'un objectif inverse. Il nous faut, début novembre, avoir un candidat ou une candidate opérationnelle pour conduire la campagne, pour... proposer aux Françaises et aux Français, avec une équipe autour de lui, une alternative démocratique
novembre.
Autour de nos valeurs.
Mais alors, Gérard Larcher, il y a une bronca,
en arrière,
une bronca des
en arrière,
sénateurs pour aller plus vite, simplement je le dis.
En arrière,
je les cite sur
nous
le calendrier.
Avons un bureau politique, je parle de la famille des Républicains, la semaine prochaine. Jean Leonetti, à qui j'ai transmis le travail que j'avais fait autour du départage, nous fera un certain nombre de
proposition. Est-ce que vous avez le temps ? On dirait que vous attendez d'aller vers la défaite. Il y a une bronca des sénateurs pour aller plus vite.
Attends,
permettez-moi. Pierre Charron, qui a tiré la première salve. Il y a une motion qui a été organisée dans la foulée par Roger Karoutchi contre le calendrier de Christian Jacob. Et qu'est-ce que vous répondez ce matin ?
J'ai bien entendu, puisque j'ai participé au moins à une partie de cette réunion.
Je m'en doute.
Le souhait d'accélérer la processus. Je pense que Jean Leonetti l'a bien entendu et qu'il fera la semaine prochaine, je le pense, un certain nombre de propositions. Mais l'objectif, c'est début novembre, on a un candidat ou une candidate opérationnelle. Mais... Il faut, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, quel que soit le résultat, un candidat naturel, il est naturel si les autres le ressentent, se préparer à une procédure de départage. Je pense qu'en plus, cette procédure, elle peut renforcer le candidat ou la candidate. Et c'est ce à quoi nous allons continuer à travailler.
Je vais parler de ce système, mais là, vous ne vous dites pas il faut renverser la table. La politique
Écoutez,
et la campagne est une guerre de mouvement. Qu'est-ce que vous attendez ?
C'est de garder la table sur ses quatre pieds. c'est un principe... Mon seul objectif, c'est qu'on gagne, c'est qu'on l'emporte et qu'on n'ait qu'un seul candidat ou une seule candidate
ça, c'est
et
important.
Qu'on soit tous
Mais
autour de
faire
lui.
Monsieur le Président du Sénat, quels arguments pour convaincre Xavier Bertrand de participer à ce système dont il ne cesse de dire qu'il n'en fera pas partie et qu'il ne s'y résoudra pas ?
Écoutez, pour avoir rencontré tout le monde, l'avoir fait encore tout à fait récemment, je fais confiance au sens des responsabilités de chacun. Ils sont chacune et chacun persuadés qu'il nous faut qu'un seul candidat, seule candidate. Et je fais
oui, mais
confiance
chacun pense
à
que
ce
c'est lui,
sens
le
qu'ils
seul
ont
candidat.
Du service de l'État et parce qu'ils ont gagné. Parce qu'ils ont gagné de manière assez exceptionnelle. Xavier Bertrand, c'est l'effondrement du Rassemblement National. C'est LREM qui avait monté cette stratégie pour tenter de l'affaiblir. Laminé, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, mais aussi Hervé Morin, eh bien, je suis persuadé aujourd'hui que nous allons pouvoir dégager ce candidat ou cette candidate.
S'il continue de s'imposer dans les sondages, Xavier Bertrand pourra vous dire, mais moi je suis le candidat naturel,
eh bien,
je suis le mieux placé pour déjouer le match.
Ce sera un constat collectif que nous ferons, parce qu'on est pas candidat naturel parce qu'on le décrète, c'est parce que c'est partagé par les autres.
J'ai envie de savoir, et peut-être ceux qui nous écoutent également, monsieur le président du Sénat, est-ce que vous êtes convaincu que Xavier Bertrand va vraiment se plier à une forme de primaire ?
Mais ça n'est pas le sujet immédiatement.
Ah, c'est le vôtre
le
un
sujet,
petit peu.
Non. Le sujet, c'est d'avoir un candidat ou une candidate opérationnelle à l'automne pour nous permettre d'offrir aux Français une alternative. Après, pardonnez-moi, c'est une question de méthode. Et je fais confiance à Jean Leonetti pour proposer au bureau politique, puis aux instances de la famille.
Parce vous qu'il avez y a le aussi luxe d'attendre.
Un conseil national, un congrès.
Que c'est
naturellement,
compliqué tout cela.
Je pense qu'il ne faut pas tarder à l'excès. Ah. Ça, c'est le premier point. Et il faut aussi parler avec les autres familles politiques du centre. Hervé Morin, les centristes, Jean-Christophe Lagarde et l'UDI. Il faut parler aussi avec les élus du territoire, parce que nous l'avons
mais
vu. Ceux qui ont fait l'élection,
Monsieur le Président,
en partie.
Quand est-ce que vous allez agir, mis à part parler ?
Ah mais non, on agit tous les jours. Faites-moi confiance, nous agissons tous les jours. Nous sommes sur le terrain et nous avons un relais extraordinaire qui s'appelle plus de 300 000 élus territoriaux. On les a vus à l'œuvre dans les élections départementales et régionales.
On va conclure. Le président de la République va s'exprimer peut-être avant le 14 juillet. Parfois, on lit, on entend qu'Emmanuel Macron pourrait s'exprimer devant le Parlement, réuni en congrès. Vous l'excluez ?
Écoutez, nous n'avons pas d'informations officielles. Encore faut-il... D'abord, il s'était engagé à le faire chaque année et il a oublié pendant 3 ans de le faire. Encore faut-il qu'il ait quelque chose à proposer et à dire. Ça lui appartient comme décision. Je n'ai pas d'informations à ce stade.
Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Vous êtes sur Europe 1, 8h29 dans un instant. L'info, la météo et le journal de l'Euro. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Une réforme indispensable qui doit être portée par le dialogue social. Les mots sur Europe 1 ce matin de Gérard Larcher, le président du Sénat, sur la réforme des retraites. Une réforme qui se fera, dit le porte-parole du gouvernement dans les Échos ce matin. Ce pourrait être dès l'automne si la reprise économique et l'embellie sanitaire se confirment. Gabriel Attal qui annonce par ailleurs que dès mercredi prochain, les tests PCR et antigéniques seront payants en France pour les touristes étrangers. Au nom de la réciprocité, puisque les Français qui voyagent doivent eux aussi payer à l'étranger. Et pour voyager en Europe, l'instauration aujourd'hui du pass sanitaire européen. Le document doit prouver que le voyageur est vacciné, guéri ou négatif au Covid. Et alors que s'annoncent les premiers départs en vacances, des grèves chez Aéroports de Paris et à la SNCF aujourd'hui pour des questions de rémunération. Un mouvement qui pourrait provoquer quelques retards. En ce 1er juillet aussi, le doublement du congé paternité, il passe à 28 jours, ou l'augmentation des tarifs réglementés du gaz, plus 10%. Joe Biden, attendu aujourd'hui en Floride, une semaine après l'effondrement d'un immeuble sur le front de mer près de Miami. Le bilan s'est encore alourdi. Hier, les corps de 2 enfants ont été découverts dans les décombres. 18 personnes sont mortes et plus de 140 autres sont toujours portées disparues. Et puis le Tour de France, étape de plat aujourd'hui, 160 km entre Tours et Châteauroux, avec Mathieu Van Der Poel, toujours en jaune.
Merci Marion Calais. 8h33, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Allez, un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent, nos amis auditeurs. Nous dirons que sur la moitié sud, ce sera, allez, soyons fous, généreusement ensoleillé. Et sur la moitié nord, un beau temps nuageux qui va s'installer progressivement, parce que nous avons quelques pluies et beaucoup de nuages en ce moment. Beaucoup de nuages près des frontières du nord et du nord-est, quelques pluies dans les Vosges, les Ardennes, la Meurthe et Moselle, sont des petites pluies. Bon, ça va s'arranger, hein. Même dans ces contrées-là, vous aurez un temps serein, ou en tout cas, même si le soleil n'est pas vraiment très présent, il sera là en embuscade. Mais en général, sur la moitié nord, notamment sur la capitale, vous aurez un temps souvent ensoleillé avec entre deux nuages. Alors, peut-être une averse, oui, pourquoi pas, même en Ile-de-France, pourquoi pas, mais enfin, c'est une averse qui ne durera pas, vous ne faites même pas attention, faites rien, vous mettez une porte cochère, vous attendez, ça part. Température maximale entre 21 et 30 degrés, 21 à Brest, 22 à Paris, 30 degrés à Marseille, en passant par 27 à Lyon, voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, tout ça vaut porte cochère hein, pour vous cacher une navette passagère. On a compris, merci Laurent. 8h34. Le journal de l'Euro avec le chef du service des sports d'Europe 1, Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
3 jours déjà, 3 jours que les Bleus ont été éliminés, mais c'est un fiasco qui est toujours aussi commenté. Hein.
Oui, hier soir dans Europe 1 Football Club, les débats étaient enflammés sur les raisons de cette élimination prématurée. Question, les Français ont-ils été victimes de leur arrogance, comme beaucoup le pensent, et surtout à l'étranger? Parmi les participants, notre consultante Aline Riera et l'ancien footballeur professionnel Marc Libra. Écoutez-les, ils n'étaient vraiment pas d'accord.
Pogba, bien sûr qu'il va trop loin, parce qu'il fait une célébration, deux célébrations, et on voit que la caméra est sur lui, il se voit sur le grand écran, et tu vas danser. C'est très sympa, danse. Par contre, il reste 25 minutes. Tu vois, danse à la fin, c'est fini, tout le monde s'amuse, on les voit un petit peu. Cette attitude-là, elle ne plaît pas. Il y a un désamour total, alors on va dire, non, ce n'est pas de la grosse tête, mais il y a des attitudes, Aline, qui pour moi me dérangent fortement.
Je ne peux pas vous laisser dire aujourd'hui que les joueurs ont le boulard. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on va reprocher aux Français, dans tous les sports, de manquer d'ambition. Nous, les Français, exactement, on n'a pas la culture du sport, on n'a pas la culture de la gagne et tout. C'est vrai, sauf que dès qu'on affiche une toute petite ambition, on dit ça y est, ils ont le boulard. Là, on disait que Didier, c'était un dieu parce qu'on a été champion du monde. Aujourd'hui, on est en train de dire il ne doit pas rester. Moi, foncièrement, ça me dérange.
Eh bien, c'est tous les soirs, hein, l'Europe 1 Football Club. Faut pas manquer ça. Et même dans la vie des Bleus, d'ailleurs, tout n'a pas été simple.
Oui, on vous en parlait ces derniers jours, et Cyril de la Morinerie, les informations que vous avez pu collecter mettent aussi en lumière un sélectionneur plus tendu qu'à l'accoutumée durant la compétition.
Oui, le Didier Deschamps de 2021 n'était pas celui de 2018. C'est un sélectionneur moins fédérateur et qui a parfois manqué de tact. D'après l'entourage de certains joueurs joints par Europe 1, Didier Deschamps aurait eu peu d'égards envers les remplaçants en leur accordant peu de temps. Il les a d'ailleurs utilisés avec parcimonie pendant les rencontres. Le patron des Bleus n'avait qu'une obsession, le trio offensif qu'il alignait en permanence sur la pelouse. Les choses se sont aggravées avec cette bulle sanitaire imperméable. Les joueurs ont vécu plus de 30 jours ensemble, 24 heures sur 24, sans voir leurs proches. Et ils l'ont très mal vécu, notamment quand ils ont appris que d'autres sélections étaient plus flexibles. Même à l'intérieur du staff, il y aurait eu des petites tensions, notamment au sujet de la préparation physique. Enfin, des couacs d'organisation ont été observés à Budapest. Les Bleus qui devaient aller à la campagne sont finalement restés au dernier moment dans leur hôtel bunkerisé du centre-ville. D'après nos informations, il y aurait eu aussi des problèmes d'intendance. La distribution des maillots, par exemple, n'aurait pas toujours été fluide. Avant la compétition, Didier Deschamps nous avait dit que cet Euro ne serait pas un long fleuve tranquille. Le sélectionneur avait vu juste.
Voilà, et pendant ce temps, plusieurs médias confirment ce que Noël Le Graët espérait. Hier matin, sur Europe 1, Didier Deschamps devrait poursuivre sa mission à la tête des Bleus jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022.
Les histoires amères de l'équipe de France, mais l'Euro, ce sont aussi de belles histoires comme celle, on va le souligner, celle de l'Ukraine.
Oui, l'Ukraine qualifiée pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une grande compétition. Les Ukrainiens qui joueront samedi soir face à l'Angleterre, une place dans le dernier carré. Et ils le doivent en grande partie à une légende du foot, leur sélectionneur, ex-ballon d'or, Andrei Shevchenko, Julien Froment.
Oui, on avait l'habitude de voir Andrei Shevchenko réaliser des exploits balle au pied au début des années 2000. Désormais, il les réalise en costard cravate depuis son banc de touche. Lui qui a repris la sélection ukrainienne juste après le fiasco de l'Euro 2016 est en train de rebâtir une équipe avec succès. Alors certes, il a loupé la qualification pour le Mondial 2018, mais là, il a trouvé la bonne alchimie entre les joueurs d'expérience comme la star Andrei Yarmolenko et les jeunes pousses, Zinchenko, le joueur de Manchester City, ou encore le jeune Zabarny, à peine 18 ans, et révélation du tournoi. Les résultats sont là, hein, puisque l'Ukraine va disputer pour la première fois de son histoire un quart de finale de championnat d'Europe. Shevchenko, l'Italien, 8 ans passé au Milan AC, espère désormais que le public du stade olympique de Rome aidera son équipe, l'Ukraine, à réaliser un nouvel exploit face à un des favoris du tournoi, l'Angleterre.
Voilà, et ce sera samedi à 21h et à vivre bien sûr en direct et en intégralité dans Europe 1 Football Club.
Merci Jean-François Pérez et bon voyage à Munich, hein, puisque, alors pas de match ce soir, je le rappelle, les quarts de finale démarrent demain soir et on va vous retrouver demain en Allemagne, Munich, avec Cyril de la Morinerie pour cette merveilleuse affiche des quarts de finale. On a hâte, Belgique-Italie. Merci Jean-François Pérez, 8h38. Dans un tout petit instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et à quelques jours des grandes vacances, je vais vous aider à préparer au mieux une petite trousse de secours avec les indispensables pour la bobologie de l'été.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin,
le 7-9,
Mathieu Béliard.
8h40 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À l'approche du départ en vacances, vous allez nous aider à constituer la fameuse trousse de secours pour parer à tous les petits bobos.
Oui, je vous cache pas que ma trousse de secours à moi, Mathieu, est quelque peu exagérée car j'embarque toujours un kit de suture au cas où, mais je vais vous donner les indispensables.
De la suture, hein,
vous. Non, là, je vais vous donner les indispensables, hein, qu'il convient de préparer pour éviter toute angoisse et sera à votre portée, vous inquiétez pas. Alors, s'il y a bien une chose à avoir, c'est un thermomètre. C'est vraiment la base, on a tendance à l'oublier pour savoir si vous ou votre enfant avez de la température. Si vous n'en avez pas, achetez-en un tout simple à 3 ou 4 euros, ça fait largement l'affaire. Ensuite, qui dit température ne veut pas dire forcément Covid, mais veut dire paracétamol. C'est vraiment le médicament de base à prendre en cas de douleur ou de fièvre. Et je vous rappelle, la posologie chez l'adulte, c'est 3 grammes par jour au maximum.
Oui, et pas d'un coup, évidemment. Alors, parfois, qui dit vacances, dit aussi intoxication alimentaire.
Eh oui Mathieu, vous avez raison, hein. Quand on dit touriste, il y a souvent la tourista qui va avec, mais je vous fais pas de dessin, mais ça peut clairement gâcher votre séjour. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de vous laver correctement les mains avant le repas pour limiter le risque de contamination. Et si jamais ça vous tombe dessus, ayez quand même avec vous un anti-diarrhéique, un anti-vomitif, ainsi que des antispasmodiques pour les douleurs abdominales. Et pour les enfants de moins de 2 ans, ayez toujours avec vous des solutés de réhydratation orale, car elles permettent de réduire le risque de déshydratation.
Alors toujours du côté de la bobologie, de quoi soigner une plaie peut-être ?
Oui, vous avez raison, parce qu'il arrive parfois qu'on se blesse en vacances. Donc toujours partir avec un antiseptique classique et des compresses stériles pour éventuellement désinfecter une petite plaie. Quelques pansements, pourquoi pas, mais aussi une pince à épiler, non pas pour s'épiler la moustache, mais pour retirer une petite écharde qui serait rentrée dans le pied de vos bambins, par exemple, ça évitera bien des angoisses. Et pour ceux qui iront en zone un peu plus boisée, je vous recommande de principe de partir avec un tire-tique que vous pouvez acheter à la pharmacie. Ça peut toujours servir et d'éviter la panique en cas de piqûre. Enfin, pour ceux qui ont des pathologies chroniques, n'hésitez pas à prendre avec vous votre ordonnance de traitement au cas où vous perdiez vos médicaments. Le pharmacien pourra alors, dans ce cas, vous dépanner durant quelques jours.
Ah oui, merci beaucoup Jimmy Mohamed. Oui, c'est là, j'aurais pas pensé quand on suit un traitement, on se promène avec l'ordonnance dans la trousse de secours. Merci Jimmy Mohamed, on vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez pour son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. 8h43, Fanny Agostini est avec nous, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous nous dites qu'une grande menace pèse sur... Alors on dit calmar ou calamar ? J'ai toujours
un doute. On peut dire les deux. Moi je dis calmar.
Alors une grande menace pèse sur le calmar au point que la Chine met en place un moratoire.
Oui, alors des encore nés à la plancha cet été, hein, c'est pas franchement la bonne idée. On l'appelle aussi le squid en anglais, le calmar en français ou encore né. Il est sur le grill, sans mauvais jeu de mots. Du coup, sur ordre du ministère chinois de l'agriculture, l'arrêt de la pêche des céphalopodes est déclaré. Le calmar est en effet victime de la surpêche. La Chine représente environ 70% des prises et ses activités de pêche hauturière le traquent très loin de son territoire jusqu'en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. Arrêter temporairement la pêche dans les principales zones de frais du calmar, c'est-à-dire là où il se reproduit, devrait donner une chance aux populations de se reconstituer.
Si la Chine met en place ce moratoire, c'est que la situation est vraiment grave.
Un peu quand même. On constate un recul récent des captures des 3 principales espèces d'encornés, l'encorné géant, l'encorné rouge argentin et le japonais. Mais ce qui est louche, c'est que la Chine, elle n'est pas vraiment réputée pour son autorégulation. Il faut dire que le pays est très critiqué pour ses pratiques sans gêne et que ce moratoire intervient à la suite de polémiques dues à la forte présence des bateaux chinois dans des zones préservées. En juillet 2020, l'Équateur avait tapé du poing sur la table lorsque des bateaux de pêche chinois avaient été retrouvés à proximité des îles Galapagos. Ce moratoire arriverait alors pour calmer le jeu et montrer que le pays est capable de prendre des dispositions face à la diminution des ressources halieutiques.
Alors ce moratoire viserait juste à bien s'afficher, à faire une belle image à l'international ?
En quelque sorte, en annonçant ce moratoire pour des pêches qui ont lieu dans des zones internationales, la Chine s'affiche comme bon élève. Cet arrêt temporaire de la pêche au calmar intervient à une saison où ces derniers sont peu présents du fait de leur cycle biologique. Ce qui veut dire que cette mesure n'est pas si difficile à prendre que cela pour les navires chinois, qui de toute façon ne pêchent pas beaucoup sur cette période. Et les conséquences seront donc limitées en matière de reconstitution des stocks. C'est vraiment une situation rageante, d'autant plus que la FAO indique que pour les calmars, comme pour le reste, 31% des stocks des produits de la mer sont exploités à un niveau non biologiquement renouvelable. 58% sont vraiment surexploités. La mer, rappelons-le, n'est pas un puits sans fond. Or, cette immensité vitale qui recouvre les 2/3 de notre planète ne peut plus aujourd'hui supporter l'existence de zones de non-droit. Rappelons que dans le monde, seulement 4% des océans bénéficient d'une législation protectrice.
Merci Fanny Agostini. C'est bien de le rappeler, notre planète, c'est tous les matins sur Europe 1. Il est 8h45. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. On va retrouver Nicolas Canteloup, la revue de presse. Bien sûr, Julie est déjà là avec nous. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, pour les titres.
Eh oui, bonjour à tous, bonjour ma chère Julie, bon pied, bon oeil, toujours comme d'habitude. Oui. Bienvenue, l'actualité ce matin, bienvenue sur Europe 1, c'est bien sûr le sirtaki et la salsa. Si, Julie, m'avez bien entendu, suivez un peu.
Sirtaki et salsa, pourquoi ?
C'est la grosse actu, ça passionne les Français, c'est la polémique du moment, il faut bien le dire. La preuve, cette nuit en effet, à l'Assemblée nationale, on en parlait avec Gérard Larcher, qui lui est voisin au Sénat, on a débattu de l'interdiction des danses traditionnelles dans les mariages civils. Ouais, salut Mathieu Light. Comment vas-tu ?
Ça va.
Salut mon Mathieu, salut, c'est Nikos. Voilà, bien moi je. Ce matin je danse. Je danse un sirtaki de protestation parce que. Sachez qu'on a une pandémie, une crise économique, l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique et la violence envers les femmes. Mais la priorité de certains députés, c'est quoi ? C'est d'interdire les danses traditionnelles dans les mariages.
C'est dingue.
C'est vrai que c'est the sujet qui préoccupe tout le monde, on le sait tous. Hein, si, oui, Julie, on ne dort pas la nuit, on est là. Putain, il y a des gens qui dansent pas français. Oh là là, oh là là, oh là là. On est roulé en boule dans la douche, en train de faire une crise d'angoisse. Non mais franchement, ils ont fumé quoi l'Assemblée des députés ? En tout cas, moi je m'en fous, je danse, voilà, je danse, je suis un homme libre, je danse le sirtaki sur Europe 1, voilà, je danse, je virevolte. Voilà, oui, c'est vrai, c'est un peu con. Ouais. Mathieu me fait signe de me calmer. C'est vrai qu'en radio ça passe moins bien, c'est un coup de gueule
mais
qui passe moins bien.
Danser.
Allez, c'est pas grave. Nico, laissez-vous aller.
Vous avez vu, j'avais ce beau costume traditionnel grec avec les jupettes et les pompons. Mathieu, je vous en prête un. Joignez-vous à moi, on danse. Allez, c'est la fête.
Avec plaisir.
Alors, Mathieu, c'est
toi. Oui, pardon. Excusez-moi, j'étais en train d'enfiler la tenue, mais c'est pas, pas
oui,
le bon.
Mais ça vous va très
allez,
bien.
L'autre info, c'est pas grave. On fera ça plus tard. Oui, pas de soucis, on fera ça tout à l'heure. Alors, l'autre info, c'est la météo mondiale qui devient folle avec ces températures qui sont montées jusqu'à 50, oui, vous entendez bien, 50 degrés au Canada ou en Russie. Laurent Cabrol, on a besoin de votre expertise, Laurent.
Oula.
Oui, c'est bien de me présenter comme expert. Écoutez, alors effectivement, là, on assiste à un dérèglement mondial avec des canicules exceptionnelles, 50 degrés, vous l'avez dit, cher Mathieu, en Russie, 48 degrés au Canada, 12 degrés en Bretagne, c'est vous dire, c'est vraiment des records en termes de chaleur, c'est du jamais vu. On n'a même pas le temps de se rafraîchir avec un petit pastis, puisque l'eau, vous le faites l'expérience, chers amis auditeurs, l'eau s'évapore dès qu'on le verse.
Alors que dans le même temps, dans les Vosges, chez nous, il y a eu de telles chutes de grêle qu'on a dû sortir les déneigeuses.
Voilà, tout à fait. Des déneigeuses ont pu circuler dans les Vosges en juin. C'est vous dire s'il faisait chaud. Hein, parce que d'habitude, dans cette saison, elles ne peuvent pas sortir les déneigeuses. Elles sont bloquées, vous le savez tous, par le blizzard.
Oh non.
Dans les Vosges, début juillet. On est obligé d'attendre le redoux en août pour remonter à des moins 4, moins 3 degrés. Des températures fort agréables pour les Vosges. Donc vraiment, le réchauffement climatique, c'est pas du blabla. Hein. Soyez prudents, chers auditeurs.
Eh ben merci à tous, hein, Nikos, Mathieu, Laurent, tout le monde. Ça y est, 50% de la population a reçu une première dose de vaccin. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Oui, 50%. Oui, bonjour à Papy, hein, qui est vacciné. Par contre, 50%, donc ça veut dire que mamie ne l'est pas. Hein, mamie, va falloir qu'elle se bouge un peu le huc, comme le disent les jeunes. Hein, allez, mamie, on se motive et on arrête de regarder des vidéos de Francis Lalanne et de Nicolas Dupont-Aignan sur YouTube. Hein, et on écoute un petit peu les scientifiques, mamie.
Alors, le variant Delta progresse. Rappelons qu'on ne dit plus le variant anglais, sud-africain ou indien, mais alpha, bêta, delta, etc. Tout l'alphabet grec. On parle même du variant Delta Plus en Inde. C'est une mutation du variant Delta.
Oui, vous aurez remarqué, Madame Julie, fort à propos, que nous avons fait des efforts en matière de marketing, hein, pour faire moins peur aux gens.
C'est vrai
que variant Delta Plus, ça sonne plus sympa, hein, ça rassure, ça fait produit de luxe, hein, ça fait moins flipper que variant indien mutant, hein, qui donne l'impression quand même qu'on va tous avoir des vieux furoncles suintants, bruisselants, hein, après avoir été mordus par un cuisinier clandestin.
Oh, mais enfin, n'exagérons rien.
En tout cas, En tout cas, ma chère Julie, bon pied, bon oeil, il est urgent de se vacciner. Et parce qu'il y a encore beaucoup de lettres dans l'alphabet grec. On ne veut pas d'une 29e vague au moment du variant, je ne sais pas, moi, Sigma Plus, collection capsule printemps-été limitée 3GS.
En tout cas, le président semble vous faire confiance sur le sujet. Le JDD expliquait cette semaine que si l'épidémie repartait, vous seriez le mieux placé pour gérer la 4e vague.
Ah oui, mais hein? Le président est lucide, il le sait. Je suis le meilleur pour gérer la Covid. Hein? La preuve, on en est à la 4e vague, Mme Julie. C'est dire si j'ai bien géré la 1ère vague, la 2e vague, la 3e vague. Je n'arrête pas les vagues. Attention, mais je suis à l'aise sur les vagues. Hein? Je suis une sorte, comment vous dire, de surfeur californien, disons le mot. Dès qu'une vague arrive, je la prends sans crainte, sans peur.
C'est ça. Eh bien, merci Jean Castex. Bonne journée.
Vivi, vous aussi.
L'exécutif réfléchit à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Effectivement, il reste des soignants non vaccinés qui demandent à avoir la possibilité de choisir. Bonjour Michel Simès.
Eh oui, bonjour ma chère Marina. Des soignants demandent la possibilité de choisir. Effectivement, ouais. Certains soignants réclament de pouvoir choisir, mais c'est quand même une drôle de liberté de choisir de ne pas appliquer certaines mesures de protection sanitaire dans un hôpital. Je prends à témoin mon collègue et néanmoins ami Jimmy Mohamed. Si on enchaîne un toucher rectal et un examen de la gorge,
c'est quand même
mieux de se laver les mains entre les deux. Qu'en pensez-vous, Jimmy ?
Ouais, c'est sûr, ça, Michel.
Il y en a quand même qui veulent choisir de pouvoir soigner en étant potentiellement malade pourtant. Alors que bon, on ne permet pas à un soignant de venir faire des transplantations du foie en ayant la rubéole, que je sache, par exemple. Hein? Et puis, mettons-nous à la place des malades. Si votre dentiste, par exemple, a le sourire de Jacouille la fripouille, c'est vrai que vous n'êtes pas totalement tranquille. Que diriez-vous également si votre chirurgien cardiaque avait la maladie de Parkinson ou si votre gynécologue avait la lèpre?
Oh là là, mais arrêtez.
Vous diriez, c'est vrai, cet hôpital, je ne vais pas lui laisser 5 étoiles sur TripAdvisor. Parce que c'est vrai que c'est répugnant.
Eh bien, merci Michel Simès. Tout à fait autre chose maintenant, l'éditeur Albin Michel a déclaré de se séparer d'Éric Zemmour au motif que celui-ci va se présenter donc à la présidentielle. Bonjour Éric Zemmour.
Oui. Bonjour Mathieu, bonjour Laurent et bonjour Julie, Madame Julie. J'avais presque oublié de vous saluer. Non, c'est vrai, j'ai rien contre vous, mais permettez que je salue d'abord les vrais journalistes avant que le quota soit imposé par les ligues féministes.
Oui, bon, écoutez, on revient à Albin Michel peut-être, hein, Éric ?
Oui, alors Albin Michel, je peux vous en parler. Ça fait des années qu'Albin Michel diffuse mes thèses du grand remplacement, hein, de Pétain qui a sauvé les Juifs, des femmes qui devraient rester à la cuisine et des Noirs qui détournent nos allocations pour s'acheter quoi ? Des écrans plats, faut bien le dire.
Tout ça va.
Mais me présenter à la présidentielle, ça a plu. Hein. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont prétexté ?
Non.
Ben, ils m'ont dit, Eric, tant que tu diffusais tes idées chez nous, ça allait parce qu'on gagnait plein de pognon. Mais si tu le fais gratuitement en te lançant dans la politique, ça a plu. Moi, d'habitude, franchement, j'aime bien le capitalisme, mais là, franchement, il y a de l'abus. Il y a de l'abus.
Merci, Éric Zemmour, merci. C'est une image étonnante qui a eu lieu, qu'on a vue pendant le match France-Suisse. La mère d'Adrien Rabiot. C'est ça, hein, Adrien Rabiot, Véronique, s'est pris le bec avec le père de Kylian Mbappé et la mère de Paul Pogba en leur reprochant l'attitude de leur fils et leur performance sur le terrain. Alors, on va accueillir la mère et le fils, Véronique Rabiot, et son fils, Adrien Rabiot. Bonjour.
Ouais, salut.
Bah, ouais. C'est la voix. Bah.
Quoi ? Oui, j'ai la voix de Nadine Morano, et alors ?
Bah oui.
Et alors, tu vois une différence, toi ? Merci, en tout cas, enfin, de m'inviter. Vous êtes toujours sur les bons coups, vous, hein ? Oh putain, mais qu'est-ce qui fait chaud dans votre studio, là ?
Quoi ?
Oh, puis ces sièges, franchement, vous bossez toute l'année là-dessus. C'est pas confortable, regarde. On sue sur vos fauteuils. J'ai les escalopes qui collent au fond du sac.
Oh,
alors, on y va. Donc, faut bien répondre aux journaleux. Mais je vais leur dire aux journaleux. Mais, excusez-moi, mais les mères Pogba et Mbappé, je leur ai mis un coup de sac à main dans la gueule parce que quand tu vois comment elles élèvent leurs gosses, hein, ils n'ont jamais fait de passe de là, mon Adrien. Alors, franchement, mon chéri, pourtant, tu les défonces, ces deux Morbac, franchement.
Non, mais arrête, maman, là, tu me fous la honte.
Mais Léo, Adrien, arrête. J'essaye de te défendre, Adrien. Non, mais franchement, c'est vrai, Mme Julie. Le père des champs, là, le mec qui s'y connaît autant en foot que moi en danse classique.
Oh, s'il vous plaît.
Pourquoi il a pas mis mon Adrien attaquant au lieu de cette pine de Kylian M. Machin, là, hein? Son père, moi, au Kylian Machin, je lui dévisse la tête et je lui chie dans le cou.
Non, maman, arrête, c'est super gênant, là. Excusez-la, hein, madame Julie. Elle a le syndrome Gilles de la Tourette, moi. Hein? Moi, je pense que Kylian est un joueur très performant en club et.
Kylian est un joueur très performant en club. Mais tu parles! C'est un branleur, ouvre les yeux, mon Adrien. Il n'est pas foutu de mettre un pénalty à un Suisse qui joue en amateur. Pourquoi? Alors, je pose la question aux journalistes. Pourquoi c'est pas mon Adrien qui l'a trié, ce putain de pénalty?
Bon, bah,
hein, qui l'a tiré, bien. Oui, oui, mais ça va. Hein, il a trois flûtes. Arrête! Mais Béliard, arrête un peu de me regarder comme ça! Mon Adrien, il a trois fois plus de burnes que toute ton équipe de Tarlouse réunie, mon Deschamps!
Non, mais maman, arrête! Arrête, tu vas finir par me mettre mal avec Didier Deschamps, là!
Bah,
c'est
oui, il y a des chances, ouais!
Mais on s'en fout, mais Deschamps, c'est un loser! Et dans la famille, on n'a jamais fermé nos gueules! C'est pas aujourd'hui que ça va commencer! Oh, putain, tu vois, ça m'a gueulé, j'ai soif! Ça m'a fait soif! Il veut un petit verre, le Cabrol? C'est de la bonne villageoise! Allez, bon Laurent, laisse-toi aller. Oh merde, il n'y en a plus. Bon, mais Adrien, prends les clés. Dépose-moi chez le caviste. Je dois récupérer une caisse de vieux pape. Et après, tu sais quoi ce qu'on va faire? On ira voir Didier Deschamps à la Fédération. Hein, j'en connais un qui va refaire la une des journaux demain.
Oh là là, la scène.
Bravo Nicolas Cantou et Julie, la revue de presque. Avec évidemment le concours de Philippe Cavrivia, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, les auteurs de la revue de presque qu'on salue. 8h58, il est là, Philippe Bordel, c'est Culture Média qui va démarrer. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de presse écrite. On va d'abord parler de Social Terre, ce magazine. Le baseline, c'est la suivante: critique radicale et alternative. Ils lancent une nouvelle formule. Leur objectif, c'est se questionner et mettre en avant des idées nouvelles. Nous serons avec Olivier Cohen de Timari, cofondateur, et Philippe Vion du RI, rédacteur chef. Et puis, un autre magazine dans un tout autre genre, Gala. Vous savez qu'il y a le Festival de Cannes qui commence mardi à la soirée d'ouverture présentée par Dorian Tillier. Et bien, à cette occasion, Gala, qui est un hebdo, passe en quotidien. Ils distribuent leur journal dans tous les palaces gratuitement. 15 000 exemplaires sortis, non pas vendus, mais donnés. On sera avec le rédacteur en chef de Gala, Mathias Gürtler. Et puis la chanteuse, la grande Sophie, elle va nous parler de la reprise de sa tournée. Vous savez que les concerts ont repris depuis hier. Oui. On peut être debout dans les concerts. Elle en a déjà fait plus de 700. Et alors, j'adore, elle dit qu'elle a toujours le trac. Elle va nous raconter ça.
C'est Philippe Bandel et Culture Média avec toute son équipe, évidemment, de 9h à 11h sur Europe 1. Moi, je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.